que mai. Ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Économie tout d'abord, les investissements étrangers au Québec ont fondu de moitié au cours de la dernière année. On en parle avec Philippe Bonneville. Alors Philippe, la guerre commerciale avec les États-Unis est en partie responsable de cette chute brutale, mais ce n'est pas l'unique cause, hein?
Oui, 50 % de diminution des investissements d'entreprises étrangères au Québec. On est passé de 13 milliards de dollars à 6,5 milliards. Faut dire que l'année précédente avait été une année record, une année de résultats gonflés avec des milliards de dollars investis dans la filière batterie. Donc, Investissement Québec n'est pas si surpris, pas si déçu. Cependant, Hubert Bolduc, le grand patron d'Investissement Québec, reconnaît que les menaces de tarifs de Donald Trump ont aussi eu un rôle à jouer.
Les entreprises sont inquiètes. Elles attendent avant de faire soit du démarchage à l'international, soit de faire des investissements. Je pense que de manière générale, la planète investissement étranger est en attente de voir ce qui va se passer.
Investissement Québec qui remarque par ailleurs que les entreprises québécoises tentent de plus en plus de diversifier leur marché d'exportation. Mm-hmm. Malgré ça, 60 % des ventes sont toujours réalisées aux États-Unis.
Intéressant. Merci Philippe Bonneville. Pablo Rodriguez a reçu deux appuis de taille dans la course à la direction du Parti libéral du Québec, soit les députés Marois Risky et Grégory Kelly. Madame Risky et M. Kelly, qui forment un couple dans la vie, ont annoncé donc au cours de la dernière heure qu'ils avaient choisi l'ancien ministre fédéral. En point de presse, Mme Risky a présenté le candidat comme un rassembleur, rappelant qu'il avait ramené au bercail la députée Marie-Claude Nichols.
J'avais dit à Pablo, écoute Pablo, t'es déjà mon ami, mais moi j'ai une amie à moi personnelle qui a marié Greg et moi, qui était notre célébrante, elle s'appelle Marie-Claude Nichols. Tu as un défi, la ramener au bercail. Et il l'a fait. Pourquoi c'est important d'avoir une personne qui peut rassembler? C'est que le lendemain du 14 juin, immédiatement, il faut qu'on rassemble tous les militants, peu importe qui ils ont appuyé.
L'ancien joueur de hockey de la LHJMQ, Noah Lee Jeté Corson, a été condamné ce matin à 24 mois d'incarcération au palais de justice de Drummondville en lien avec le viol collectif d'une adolescente. Selon ce que rapporte le journal de Montréal, le résident de Sherbrooke, âgé de 27 ans, espérait purger sa peine à la maison. L'ancien hockeyeur avait été reconnu coupable d'agression sexuelle avec la participation de tierces personnes. Corson, qui n'avait pas pris de mesures permettant de s'assurer de l'âge de la victime qui avait 15 ans à l'automne 2016. Bilan de saison de la direction du Canadien de Montréal maintenant, après les joueurs vendredi, c'est au tour au cours de la dernière heure du directeur général Ken Hughes et du vice-président exécutif aux opérations hockey, Jeff Gorton, de rencontrer les médias. Ken Hughes espère que le passage de l'équipe en série servira de motivation. On écoute là-dessus.
J'espère que qu'est-ce qu'on a vécu va leur faire plus fin comme individuel puis comme équipe. Puis j'espère que les jeunes en arrière vont pousser plus aussi pour faire partir de cette expérience puis cette équipe.
Une opération policière s'est déroulée aux petites heures du matin en lien avec du trafic d'armes à feu. Le tout a commencé avec l'arrestation d'une Américaine de 45 ans de l'État de New York alors qu'elle venait d'entrer de façon illégale au pays avec des armes à feu en sa possession. L'arrestation s'est déroulée dans le secteur de Franklin en Montérégie. Et enfin, la sélection du jury est en cours au procès du rappeur Sean Diddy Combs qui s'est ouvert aujourd'hui à New York pour trafic sexuel. Cette étape pourrait prendre une semaine et les déclarations d'ouverture des avocats sont prévues la semaine prochaine. Le procès de l'homme de 55 ans doit durer 8 semaines. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Tremblay sur le terrain. Tu es victime d'une injustice avec la police, le gouvernement, la CNESST. Peu importe. Tu crois que tes droits ont été lésés? Tu as été témoin d'une histoire qui doit être dénoncée. Un journaliste d'expérience, un journaliste d'enquête, un journaliste près du peuple, prêt à t'écouter. Stéphane, journaliste Tremblay sur Facebook ou encore 438-274-1451. Tremblay sur le terrain.
La radio qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent.
FM 93, Rimouski.
Si ça fait partie de l'actualité, vous le saurez à CFIX FM 93.
Rimouski.
Nouveau, du frais, de l'inattendu. au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
C'est la deuxième heure de l'émission dans une trentaine de minutes. Christian Page, journaliste spécialisé en actualité paranormale, va être avec nous comme tous les lundis. Il va nous parler des chemtrails. Oh, cette croyance, théorie du complot qui est fascinante. Semblerait-il qu'il y a une nouvelle loi en Floride là, contre les chemtrails. J'ai hâte de l'entendre à ce sujet. Mais juste avant, on parle d'exploration urbaine. C'est une grosse, grosse mode, ça, notamment auprès des adolescents. Mais c'est pas sans danger, hein. Il y a des lieux abandonnés un peu partout au Québec qui sont hyper attirants. C'est le fun d'aller là, il fait noir, il y a des graffitis. Mais on peut se rappeler, il y a quelques semaines, une adolescente là, qui est morte à Shawinigan dans les décombres d'une ancienne usine. Et là, ce matin, on peut lire dans le journal Le Soleil qu'il y a un terrain de maison mobile abandonnée qui pose bien des problèmes. Là. Introduction par réfraction, vandalisme. Il y a aussi danger avec des fils électriques coupés n'importe comment. Quoi faire avec ça? C'est la question qu'on se pose. Là. C'est un parc, en fait, de maisons mobiles qui a été racheté par la ville de Lévis. On en discute avec Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon. Bonjour, M. Gendron.
Oui, bonjour, Marie-Ève. Ça va bien?
Ça va bien. J'ai toujours de la difficulté à dire Huntingdon.
Ça se donne avec un D.
Je le sais, mais oui. D, il sort en T. En tout cas, vous-même, vous êtes un adepte d'exploration urbaine. Je ne savais pas ça.
Ah, oh, oui, ça fait au moins... On vieillit, là, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus la dernière fois, mais ça a commencé, là, tu sais, tranquillement. Puis souvent, en campagne, on voit des édifices abandonnés. Fait que moi, j'avais comme une attirance naturelle vers ça. J'aime beaucoup l'histoire. Puis, c'est ça. Alors, je me ramasse maire d'une ville industrielle où est-ce que, là, les usines ont fermé. Fait qu'on a été confrontés à ça, là. Ce que tu as parlé avec en entrée de jeu avec Shawinigan, là, une usine qui est désaffectée, puis il y a eu des morts. Nous, il n'y a pas eu de morts, mais il a fallu prendre position rapidement, là, concernant ces édifices-là, parce que ça devient un passif, ça, dans une communauté. C'est dangereux.
Justement, je suis curieuse de vous entendre un peu plus en détail là, avant d'en venir au terrain à Lévis de Maison Mobile. Qu'est-ce qui se passait exactement dans votre municipalité? C'est les jeunes qui allaient là, puis c'est quoi? Il y avait des dénonciations de citoyens? Il y avait des problèmes?
Ben, c'est-à-dire, le dossier de Lévis est différent de celui que j'ai vécu chez nous, parce que là, nous, c'est une fermeture d'usine. Fait que là, tu te ramasses avec des bâtiments désaffectés, puis effectivement, il y a eu des intros par effraction. Mais que ce soit en milieu urbain ou milieu rural, ça arrive. Évidemment, t'as une espèce de bâtiment-là abandonné, comme à Lévis, t'as un parc de roulottes abandonné. Puis évidemment, c'est pas... J'entendais le directeur de la municipalité, là, à Lévis, qui disait, ouais, puis en plus, on est outré, il y a rien à voler là, il y a plus rien. Ouais, mais c'est pas grave, ça marche pas de même. Un explorateur urbain, il rentre là souvent pour aller voir comment les gens vivaient. C'était quoi le cadre de vie de la personne pour aller s'inspirer, pour aller... C'est très romantique, là, mon approche,
oui,
là, vous allez rire. Là.
Stéphane Gendron, mais l'exploration c'est urbaine, romantique.
Non, mais c'est ça. Non, mais c'est plein d'histoires. Tu découvres des milieux de vie, des fois, qui sont restés figés dans le temps depuis 35 ans, 40 ans. Tu sais, c'est quelque chose. Il y a quelque chose, mais malheureusement, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est pas légal, ça prend des permissions. En tout cas, c'est ça qui est malheureux, c'est que les gens suivent pas le parcours, tu sais, nécessaire pour faire de l'exploration urbaine.
Parce que si vous le dites, vous, ça vous intéresse, ça vous passionne, vous êtes un passionné d'histoire, vous le faites, vous aussi. À partir de quand on pourrait dire que ça devient un problème, que ce soit pour les citoyens ou pour la municipalité, qu'il y a ça sur ces terrains?
C'est ça. Quand tu as affaire à des bâtiments désaffectés, qui sont laissés en plein comme ça, évidemment, c'est au milieu de nulle part. Là. Je pense sur le plan de la sécurité, il n'y a pas de suivi. Y a-tu des produits dangereux? Y avait-tu de l'amiante? Est-ce que la structure est en train de tomber? Est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Tu sais, je veux dire, tu regardes un building en ruine, moi, ça m'inspire. Moi, je trouve ça beau, c'est magnifique, c'est pour toutes sortes de raisons. Mais c'est là qu'au-delà de la peinture, il y a quelque chose qui tourne pas rond, puis c'est là que des événements malheureux arrivent, puis c'est là que les villes sont prises avec ça. Elles doivent intervenir. C'est soit que tu t'en prends au propriétaire qui prend pas ses responsabilités pour sécuriser la place, puis s'il veut pas le faire, ben là, il faut s'adresser aux tribunaux, puis la ville doit prendre les devants, puis sécuriser les lieux, puis envoyer la facture, puis faire les travaux, puis là, ça finit plus, puis c'est les citoyens qui supportent ça, là.
Mais justement, là, c'est quoi la responsabilité de la ville concernant ces bâtiments-là, ces lieux-là? Est-ce que c'est de faire la pression sur le propriétaire quand la ville n'est pas propriétaire pour qu'ils prennent ça en main? Ou c'est eux-mêmes, ouais, comme c'est leur terrain?
c'est ça, comme là, à Lévis, puis sûr, là, pas loin de chez vous, là, partout où tu restes, là, tu vois toujours un shack, là, qui tombe en ruine à quelque part, puis là, tu te demandes, mais comment ça se fait que la ville fait rien? Comment ça se fait qu'on endure ça, qu'on laisse traîner ça? Mais là, la ville, elle peut intervenir juste en dernier recours. Tu sais, je veux dire, quand ça tombe vraiment dans ta cour, c'est, ça n'a rien donné avec la personne est introuvable, la personne est complètement disparue, elle donne pas suite, peu importe. Des fois même, tu vas chercher des jugements contre ces propriétaires de building-là, puis ils respectent même pas le jugement, ils sont même plus là, ils sont morts, ils ont fait faillite, ça, c'est rendu un éléphant blanc. Fait que là, t'as beau aller chercher un jugement, t'as beau l'avoir bon pour 10 ans pour l'exécuter, mais après, tu fais quoi? Il faut que tu, puis c'est là que t'es là, comme, probablement comme Lévis, ils ont acheté le terrain, puis là, ils vont le démolir tranquillement, ils vont le déconstruire, puis là, la nature va reprendre ses droits, mais en attendant, il faut sécuriser les yeux. Puis là, les gens disent, ouais, mais il faudrait fermer toute la baraque avec des murs de béton puis des New Jersey. Mais là, si tu fais ça, puis il y a un incendie, les camions d'incendie peuvent pas intervenir. Alors, c'est comme, il y a pas de solution parfaite dans ces affaires-là, mais t'es pogné avec.
Donc là, ce que vous expliquez, Stéphane Gendron, c'est justement ce qui nous permet de comprendre pourquoi on en voit tant des lieux comme ça partout au Québec, oui, où on a l'impression qu'il se passe jamais rien, puis on se dit c'est pas sécuritaire, les ados s'en vont le jouer, il peut y avoir des décès, oui, comme ça arrivait à Shawinigan. C'est que c'est vraiment difficile de courir après le monde qui possède ces terrains-là puis de faire changer les choses.
Écoute, à Montréal, là, c'est sûr, Griffintown, là, tu sais, la belle partie qu'on a toute revitalisée, là, le bas de la ville, là, Griffintown. Oui. Avant, là, c'était plein d'endroits comme ça, puis bon, ben là, ça a pris quasiment une génération avant qu'on, ça s'est gentrifié, tu sais, il y a tout un débat social à faire là-dessus, là, sur Griffintown, là, l'urbanisme, c'est quoi, c'est-tu tassé du monde parce que tout tombe en ruine ou si, en tout cas. Mais c'est ça. Avant, c'était ça, c'était une cour de terrain de jeu. Il y a encore quelques endroits à Montréal, là, ou en périphérie. Pour ceux qui s'en souviennent, à Beauharnois, en Montérégie, moi, j'étais allé faire de l'explo urbaine. Là, j'ai même fait un documentaire sur l'Aspexcel. L'Aspexcel, c'était l'usine où on imprimait le papier monnaie canadien avant que ça soit délocalisé en Europe. À un moment donné, ça a été délocalisé, l'usine a fermé ses portes. C'était du papier très haute sécurité qu'on faisait là, du papier textile qu'on appelle.
Okay. Bon.
Fait que là, ça, le feu a pogné 2-3 fois là-dedans, à un point tel que le propriétaire n'en pouvait plus, la ville n'en pouvait plus, tout le monde n'en pouvait plus. C'était rendu un repère d'exploration, puis le monde allait mettre le feu là-dedans. Fait que là, aujourd'hui, ça a tout été démoli.
Mais est-ce qu'il y a un moyen d'encadrer ça? Tu sais, de se dire, il y a des lieux historiques vraiment intéressants, il y a des gens qui sont passionnés de ça.
Oui.
Ben, on peut rendre ces espaces-là comme des mini-musées sécurisés.
Oui, ça serait bien le fun, mais premièrement, il n'y a pas au Québec, là, on parle là, de la paroisse du Québec, 9 millions d'habitants de peine et de misère. L'équivalent d'une ville américaine et de sa banlieue. On est petit. 2, beaucoup de patrimoine, comme tu le dis, tombe en ruine, patrimoine industriel. Tu sais, les tours d'eau, tu sais, les châteaux d'eau qu'on voit un peu partout, qu'on voyait dans le temps, là.
Oui.
Ben là, on les démantèle parce qu'ils vont tomber à terre. On n'a pas d'argent. C'est ça le problème, c'est qu'on est petit, on n'a pas d'argent, on est pauvre, puis on n'a pas de culture de préservation du patrimoine. Il n'y a pas ça, là. Ça n'existe pas, là. Tu sais, avant qu'on préserve un patrimoine. Tu sais, là, Québec, là, Nathalie Roy était ministre de la Culture, là, récemment, là, avant qu'elle soit présidente de l'Assemblée nationale, puis là, elle intervenait partout. Ah, il faudrait sauver tel building. Puis il faudrait citer tel building. Ben oui, mais ça prend de l'argent. Tu sais, les villes, là, qui protègent pas leurs buildings. C'est épouvantable, monsieur le maire, vous protégez pas l'ancien couvent des Ursulines. Ben, je comprends tout. Mais qui va payer? Comprenez-vous? Qui?
Les villes, ils ont des limites. Je suis crampé de vous entendre. Je me sens dans un conseil municipal, là. On vous entend.
Oui, ben oui, ça ressemble. D'ailleurs, on est-tu lundi aujourd'hui?
Oui, on est lundi. Oui, premier lundi de mai.
Écoutez, sortez à vos conseils municipaux à soir, là. C'est le premier lundi du mois, là, en général, là, c'est les conseils à soir. Là. C'est pas juste le mois de Marie, de la Sainte Vierge, là. Ce mois de mai. Il faut aller au conseil.
Bonne suggestion, puis ce qu'on comprend, c'est que ça risque pas de changer, de bouger pour ces lieux, usines abandonnées, terrains, c'est-à-dire, on n'a pas d'argent, on est trop petit, conserver des lieux qui peuvent devenir intéressants, c'est pas vraiment envisageable, puis de l'autre côté, ben il va y avoir des enjeux de sécurité, c'est difficile de savoir qui va prendre ça en main, pas de fond, ouais. Non. C'est un peu décourageant.
Marie-Ève, t'apportes un point, là, tu sais, faire des musées, là, il y avait les grandes maisons bleues que François Legault voulait lancer, là, tu sais, un peu partout en région, où est-ce que là, on se rassemblerait dans l'émotion pour fêter notre histoire commune à nous tous, les espaces bleus, puis les rendez-vous bleus, puis je pense qu'on a fait une maison bleue et demie, puis après, on a manqué d'oxygène, alias, on n'avait plus d'argent.
Moi, je suis traumatisée du bleu depuis le panier bleu, juste pour dire.
Oui, tout est bleu, puis ça finit, on n'a plus d'oxygène, on n'a plus d'argent.
OK. Stéphane Gendron, on devient bleu, hein. Ex-maire de Huntingdon, vous restez avec nous après la pause. Il y a le thème, le conseil municipal, en lien avec notre prochain sujet. On parle d'une initiative du maire de Joliette, là,